Dans le bassin de la Loire, la grève des mineurs est toujours totale.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée.
Même situation dans l'industrie métallurgique qui emploie quelques 50 000 personnes.
La Société d'Histoire de Firminy et Radio Ondaine vous présente l'histoire et la petite histoire de Firminy.
Oui, chers auditeurs, bonjour. Michel Duffy, Société d'Histoire.
Et Jean Vigouroux.
Nous allons aujourd'hui vous conter l'histoire du Trésor des Bruneaux. Une histoire vraie, bien entendu, qui a été établie à partir de deux faits parfaitement authentiques qui se sont déroulés à un siècle d'intervalle. Jean, commençons un petit peu par parler des habitants du château à cette époque, c'est-à-dire famille Charpin.
Oui, oui, si on veut pouvoir suivre l'histoire, il faut avoir quelques idées sur la généalogie de cette famille. Donc, on ferait commencer l'histoire le 31 juillet 1753. C'est la date du mariage de Jean-Baptiste Michel de Charpin, comte de Feugerolles, avec Anne-Marie Anselmé des Bruneaux, la dernière héritière des Anselmé, qui vivait donc, comme leur nom l'indique, au château des Bruneaux.
Un beau mariage.
Oui, un beau mariage qui s'est même déroulé dans la chapelle du château, comme c'est inscrit dans l'acte de mariage que l'on a, que l'on peut trouver facilement en généalogie. Donc ce couple s'installe au château, va apporter à cette vieille maison forte certaines améliorations, assez importante au point de vue architectural. Bref, on n'est pas là pour parler d'architecture. Et parlons du fils. Le fils, c'est Alexandre Jérôme de Charpin. Ensuite, deuxième génération, c'est lui qui va prendre, je dirais, la secousse au moment de l'époque révolutionnaire, 1792-1793. Troisième génération, André Camille de Charpin, donc le petit-fils de l'ancêtre Jean-Baptiste Michel, qui mourra assez jeune, qui aura des enfants. Puis, une génération suivante, c'est Hippolyte. Et enfin, la dernière génération dont nous parlerons, qui a affaire avec les Bruneaux, c'est André Camille de Charpin, qui vendra le château. Bon, voilà donc cette histoire du trésor des Bruneaux va donc se dérouler sur 5 générations de Charpin. Ceci dit, maintenant, venons-en à l'histoire, c'est-à-dire à l'époque où, eh bien,
on va parler déjà avec Alexandre Jérôme de Charpin.
Donc nous sommes en 1792.
Voilà.
Jean-Baptiste Michel de Charpin, celui qui est venu s'y installer, vient de mourir. Et c'est le fils, Alexandre Jérôme de Charpin, qui va être le héros malheureux de l'histoire.
Et oui, et là va intervenir 1792, nous sommes à l'époque de la Révolution française, on est dans une période qui va s'appeler la Terreur, et nous allons plus particulièrement parler d'un personnage, un triste personnage,
même sinistre,
pourrait-on dire, Claude Javogue. Alors Claude Javogue, lui, est né à Bellegarde-en-Forêt en 1759. Avant la Révolution, il est donc fils aîné d'un officier des eaux et forêts, notaire procureur du châtelain de Feur. Lui-même va suivre donc des études au collège de Montbrison. Il va être clerc auprès du procureur du roi de Montbrison, s'il vous plaît, licencié en droit à l'université de Valence, et il va se retrouver au barreau de Montbrison en 1792. Et arrive donc la période où nous allons évoquer l'événement, sous la Révolution. Il est commandant de la garde nationale, administrateur du directoire à Montbrison, député à la Convention. C'est un montagnard.
Montagnard, donc un petit peu extrémiste.
Extrémiste. Il fréquente le club des Jacobins de Paris. Il combat les Girondins. Il a voté la mort de Louis XVI. Et il va être envoyé pour combattre l'insurrection donc fédéralistes en Saône-et-Loire, Rhône-et-Loire, Loire 1, bien entendu.
Et à Lyon.
Et à Lyon. Et donc c'est là où il va commencer à faire parler de lui, dans la région, et il va se retrouver à faire son entrée triomphale à Saint-Chamond, Val-Rousseau, en 93, Moron-les-Bains, en 93 aussi, et il va même, voilà, j'ai noté quelques éléments de ce qu'il disait à l'époque, il va pénétrer à Montbrison. Montbrison, il va dire, à propos du soulèvement des Lyonnais, il va dire, le sang coulera comme l'eau dans les rues.
Si, si, oui.
Montbrison, d'ailleurs, où il va massacrer la ville, on abat les remparts, ça devient Montbrisé.
Montbrisé, oui.
Voilà. Dans l'un, il a d'autres paroles. Il dit « L'édifice de la prospérité publique ne peut se consolider que par la destruction et le cadavre des derniers des honnêtes gens. »
Eh ben, donc tout un programme. Hein.
Il est marqué par l'égalitarisme. Il transforme un emprunt forcé en taxation des riches à Harmeville.
Harmeville.
Il multiplie les comités de surveillance. Les commissaires sont un petit peu partout présents. Il essaie de constituer même une armée révolutionnaire. Et il est évidemment pour la déchristianisation.
Le gros problème, c'est que avec la révolution, avec la contre-révolution lyonnaise, on lui a donné tous les pouvoirs pour lutter contre. Et donner à un tel personnage tous les pouvoirs, c'est dangereux.
Eh bien, on est bien d'accord, Jean. Et le premier à commencer à s'inquiéter, c'est Georges Couthon.
Ah.
Couthon va s'en inquiéter et il va être même traité, Georges Couthon, de contre-révolutionnaire et d'ennemi du peuple
oui.
par Javogue. Donc, la Convention va rappeler Javogue. Il va être traduit devant le tribunal de la Convention, renvoyé devant le comité de salut public et puis il va se rétracter. Il va même, donc, à nouveau se réconcilier avec Couthon. Mais ça ne saurait tarder. Le 9 Thermidor est là. Il va être, à la suite de ce 9 Thermidor, dénoncé par des administrateurs de Bourg-la-Reine. Il va y avoir une pétition des habitants de Rhône-et-Loire. Il va être arrêté. Et après l'échec de l'insurrection, pour sympathie avec les insurgés et son action en l'an 2, et donc... Là aussi, il va encore bénéficier de l'amnistie générale en 1995, votée par la Convention. Mais arrive le Directoire. Et là, c'est une autre histoire. Parce qu'il va assister à une réunion de la conjuration des égaux contre le pouvoir. Il va à nouveau être soupçonné, va être arrêté. Il est en fuite. Donc on l'arrête, on le condamne. Et il va être condamné par le Conseil militaire du Temple, fusillé. Eh oui, il termine fusillé en 1996. Voilà la vie... Résumé assez rapidement de Javogue, mais un triste personnage qui a marqué la région. Il ne fallait pas être noble en ce temps-là dans la région de la Loire.
Comme quoi, tout extrémiste rencontre un extrémiste encore plus extrémiste que lui-même.
Et
la preuve, c'est qu'il se fait fusiller. Mais revenons à, j'allais dire, à nos moutons, ou plutôt à notre trésor, à l'histoire de notre trésor. Parce que revenons donc à l'époque où Javogue est tout puissant.
Alors qu'est-ce qu'il arrive à notre famille Charpin des Bruneaux ?
Oh bien, comme tu l'as annoncé, Javogue a une phobie, ce sont les ci-devant nobles qu'il veut voir raccourcir à tout prix. D'Abouin de Cordes, la tour Varan ont déjà été enfermés. Et d'ailleurs, deux des membres, un à Boincorde et un à la tour Varan, ont le payé de leur vie, car ils les avaient trempés dans la contre-révolution lyonnaise.
Oui.
Hein, et Charpin, qui s'est montré prudent, qui est resté dans son château des Bruneaux, est quand même victime de la suspicion et un peu de la folie, de la mégalomanie de Javogue. Il est donc arrêté, il est emmené à Feur. Pendant son incarcération, d'abord à Saint-Étienne, puis à Feur pour être jugé, pendant son incarcération, Javogue met une troupe dans le château qui va vivre aux dépens de la maison, qui vont rudoyer
les
habitants de la maison, l'épouse d'Alexandre, qui, on ne l'a pas nommée, qui s'appelle Suzanne d'Albon. Et c'est alors qu'intervient un autre personnage qui a sa place dans l'histoire locale, c'est le dénommé Omeyer.
Oui, tu veux dire le père de Putain d'Âne.
Le père de Putain d'Âne. Lui, il ne portait pas encore le surnom de Putain d'Âne, c'est le fils qui prendra ce surnom. Lui, c'était Lavouré. Lavouré, c'est le nom d'un village de la commune de Saint-Victor-sur-Loire, où il est né, où la famille, d'où la famille est originaire. Donc ce Lavouré, il tient un café, un bistrot, une taverne, nous dirons, pour respecter le langage de l'époque, en haut de la place du marché, dans la rue centrale. Car la place du marché ne va pas jusque-là, mais bref. Et ce Lavouré, qui a de bons rapports avec le comte de Charpin, va se proposer. Il y a eu le maire déjà, Perrin, Nicolas Perrin.
Ça n'a pas servi à grand-chose.
Un acte de civisme. Hein, ça ne coûtait pas cher de faire un acte annonçant que le citoyen Charpin s'est toujours montré loyal avec la nation. Pour un personnage comme Javogue, ça, c'est un papier qu'on met à la poubelle. Alors, Lavouré a une meilleure idée. Il a eu dans sa jeunesse un rapport, des relations avec une certaine Marguerite Fourneyron.
Oui, je vois. La Merlasse.
La grande Merlasse,
oui.
On l'appelait la Merlasse parce qu'elle habitait la Croix-de-Marlay. Et, tiens-toi bien, c'était la maîtresse de Javogue.
Ah, mais là...
Tu vois tout de suite...
Bien sûr. Mais il joue un jeu dangereux, là, parce que...
Oui, bien sûr, parce que...
Ça fonctionne pas, qu'il veut faire, là.
Si Javogue prend ombrage de l'intervention d'un ancien amant de sa...
Tu imagines.
Son ami, Lavouré joue gros. Mais bon, il la joue fine, il va voir Marguerite Fourneyron, qui semble avoir été sensible aux arguments de Lavouré... Et la grande Merlasse, donc, intervient auprès de son amant et lui demande d'être clément, que Charpin est un honnête homme, qu'il faut le lâcher. Alors, bien sûr, Javogue ne lâche jamais sa proie. Il veut bien faire quelque chose pour faire plaisir à sa maîtresse, mais il faut qu'en contrepartie, le comte fasse preuve de citoyenneté. Donc, le comte est jugé.
Oui.
Et qu'arrive-t-il
alors,
après
le jugement.
Eh bien,
ben,
jugement.
On peut parler du jugement.
Oui.
Du jugement de la commission révolutionnaire.
C'est
alors, le jugement de la commission révolutionnaire, je peux vous en donner lecture. Séance à feur. En séance, donc, du 5e niveau de l'an, seconde de la République 1.
Ça fait quoi, ça?
Indivisible. Et démocratique, donc ça doit être en...
1794. Nivose. C'est un mois d'hiver.
Un mois d'hiver, c'est décembre.
C'est décembre, je crois. Ouais.
Et la commission révolutionnaire, c'est en affaire, vu les interrogatoires des citoyens Alexandre, Jérôme, Charpin, ainsi devant Noble, habitant à Firminy. Denis Magnieux, aussi ci-devant noble, habitant Saint-Laurent-la-Conche, Pierre Rochet, juge de paix de Saint-Jean-sur-les-Meux, vu pareillement les diverses dispositions des témoins produites pour ou contre leur certificat de civisme visé par les autorités constituées et leur comité de surveillance respectif, après les avoir entendus eux-mêmes dans leur défense, etc., déclare qu'il est visiblement prouvé que depuis le commencement de la Révolution, ils n'ont cessé de donner des preuves de leur attachement à la cause du peuple.
Ah ben voilà, c'est gagné.
Qu'ils ont constamment défendu ses intérêts.
Ah.
Qu'enfin, il n'existe aucune preuve ni indice qui puisse faire suspecter leurs intentions.
Ben voilà.
En conséquence, elle les acquitte et ordonne qu'ils seront à l'instant mis en liberté. Ordonne en outre que sur l'expédition du président du présent jugement, il leur sera fait main levée pure et simple de séquestre des scellés mis sur leurs effets, Ainsi, dans la séance publique, les jours de l'an, donc
oui, Nivose,
qui ont été cités tout à l'heure, Nivose, en 1, laquelle ont assisté les citoyens Bardet, président, taillant, blablabla, et c'est signé, donc certifié, le greffier. Donc voilà, il est acquitté, il s'en tire bien, mais...
Oui, la main levée sur l'ensemble des biens sous séquestre.
Oui, mais il y a quand même un petit
additif.
Oui, qui est non négligeable.
Oui.
C'est le fait que Louis-Alexandre Jérôme de Charpin doit remettre l'argenterie du château à Jérôme.
L'argenterie du château, c'était important, ça c'est...
Alors, l'argenterie du château, on en a un décompte que l'on pourrait donc...
Ah oui, on va avoir ta liste, il y en a quand même une quantité importante. Dis-nous quelques petites...
Bon, 30 cuillères, 29 fourchettes, 4 casseroles, 4 compotiers, 4 soucoupes, 17 plarons, etc.
Argenterie, hein ?
Oui, argenterie. Ah, dis bien ce que ça veut dire.
Oui, c'est
fait
pas,
d'argent.
C'est pas en étain.
C'est pas en étain.
C'est pas de la monnaie, des couverts en étain.
Le tout pesant 466 mares et 4 onces. C'était donc inventorié au château, remis à la Convention nationale. Et donc, sur ce, le comte va être libéré, escorté jusqu'à son château par les habitants.
Oui. Voilà. Preuve qu'il était très populaire dans la paroisse.
Ah, il était très, très populaire. Et donc, là, vraiment, c'est une liesse populaire qui s'exprime. Et voilà.
Oui. Et donc, les Charpins semblent être sortis de leur problème. Et ils vont donc reprendre une vie normale dans le château. Marguerite Fourneyron n'aura pas obligé des ingrats.
Ah non, oui, bah évidemment. Je pense que la rente qui va lui être accordée par la famille Charpin le restant de ses jours
va lui permettre de vivre dignement, d'autant plus que, comme tu l'as dit tout à l'heure, et Javogue ne va pas durer très longtemps.
Voilà, et de passer la période post-révolutionnaire tranquillement.
Voilà. Donc voilà l'histoire, je dirais, du trésor. Mais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'histoire n'est pas finie. On aurait pu croire que le trésor du château avait été confisqué par la nation, peut-être par Javogue, si l'on a mauvaise langue, mais après tout, personne ne peut dire que Javogue a mis la main sur l'argenterie du château. Mais enfin, toujours est-il, c'est qu'elle a disparu des Bruneaux.
Oui, mais on a dit qu'il y avait deux faits dans cette histoire. Arrivons donc à la deuxième partie.
Alors, bon, que va-t-il se passer entre cette première partie qui vient de se clore et puis le dénouement ?
Ben, il faudrait que tu parles peut-être un petit peu du 19e siècle et
de la vie au château. Oui, parce qu'en réalité, je vous ai donné des listes de générations de la famille Charpin. Nous en sommes donc Alexandre-Louis Jérôme, qui vient d'échapper des griffes de Javogue. Mais en 1801...
Il n'a pas profité longtemps.
Il n'a pas vécu pas très longtemps. En 1801, il décède. Sa femme...
C'est une série qui commence.
Ah oui, sa femme va décéder en 1803. D'ailleurs, en 1801, non seulement il décède, mais à 8 jours d'intervalle, sa mère aussi, la vieille Anne-Marie Anselmé des Bruneaux, décède aussi, également. Sa femme, c'est en 1803. Le fils, André Camille, décédera, lui, en 1824. Il a alors 37 ans. Il a deux enfants qui sont mineurs quand le père meurt, qui sont élevés par des tuteurs, une tutrice plus exactement, c'est une tante, et ils ne seront plus élevés au château. Ils vont partir dans des châteaux appartenant à leur tante, et le château des Bruneaux reste un peu vide après des époques de mouvements, d'émotions, de la Révolution. Le château sonne étrangement le creux. Il devient vide à tel point que lorsque André Camille meurt, Les enfants mineurs sont élevés ailleurs et on attend que ces enfants mineurs deviennent à leur tour majeurs. Nous sommes alors dans les années 1840, peu importe, 42 ou 43, c'est pas ça l'important. On va décider de vendre le château. Donc, le château est mis en vente. On a commencé déjà par vendre toutes les propriétés, les domaines. Ça va durer. Il va y avoir plus de 35 ventes qui vont être passées entre les Charpins ou leur ayant droit, ou leurs représentants, parce qu'ils ne sont plus là, et des paysans qui arrondissent leur petit lopin de terre. Bref, ils achètent des... Et le château est à son tour vendu à une famille de bourgeois, une famille stéphanoise, les Miquelon-Levent.
Pas une bonne affaire. Hein.
On ne sait pas trop qui sont ces Miquelon-Levent, des commerçants. Je n'ai pas trouvé l'origine de leur fortune. Enfin, elle était sûrement moins importante qu'ils ne le pensaient, parce qu'ils n'ont jamais pu payer leurs dettes.
Ah oui.
Et à tel point que les années passent.
Et les Charpins reviennent.
Et les Charpins vont finir par revenir et récupérer à grand-peine leur propriété. Et comme par hasard. Nous sommes alors en 1850 lorsqu'ils reviennent. Donc tous ces procès, parce qu'il y a eu procès qui ont duré une dizaine d'années, lorsqu'il arrive en 1850, le comte, non plus André, nous sommes à ce moment-là, c'est Hippolyte André-Suzanne. Cet Hippolyte André-Suzanne se met à aimer ce château qu'ils ne connaissent pas finalement. Ah, oui. ils y sont nés... Mais après, ils en sont partis très jeunes.
Il va redorer le blason de la maison.
Oui, il va redorer le blason de la maison, mais il va prendre goût à la politique. Oui. D'abord parce qu'il y a un fait nouveau. Il y a le prince Louis-Napoléon Bonaparte qui est le prince président, hein, sous la Deuxième République. On prétendra même qu'en 1851, je crois, lorsque ce prince président viendra visiter Saint-Étienne...
Il serait venu au Bruno.
Il serait venu passer une nuit au Bruno.
Oui, oui.
Ça fait peut-être partie de la légende.
Ça se dit souvent.
Ça se dit.
On fait des visites de château.
Oui, visites de château. On vient voir le comte et la comtesse. Enfin, oui, bref. Oui, oui. Surtout que Napoléon III avait une réputation. Enfin, bref.
Oui, non. On s'arrêtera là.
On s'arrêtera là.
Il serait bref. Condamnable au jour d'aujourd'hui.
Bon, toujours est-il, c'est que le comte, va devenir maire de Chazeau. Passé un moment, il sera maire de Chazeau et de Firminy, alors que les deux communes fusionnent pendant un certain temps, pour une raison que je n'ai jamais vraiment compris. Et puis, il viendra député. Alors arrive l'Empire, 1852, il devient, bien sûr, un prosélyte du Second Empire. Il est élu en 1859. Il est élu en 1863.
Il y a un accro.
En 1863, il est pourtant le candidat officiel, celui qui a les affiches blanches.
Eh oui, hein, mais en face de lui.
En face de lui, voilà, il y a un gros morceau de l'opposition, un républicain, qui est bien connu également dans la région. C'est
Pierre-Frédéric Dorian.
Pierre-Frédéric Dorian, le gendre de Jules Holzer,
de Jacob Holzer.
Et la lutte est...
C'est acharné. Hein,
acharné. On en a fait une représentation l'an dernier pour la deuxième
nocturne. Nous avons eu la visite, d'ailleurs.
On a eu la visite pendant
des deux candidats.
Pendant la campagne électorale.
Château de Bruno, ouais, pendant
absolument.
La campagne électorale.
Ouais, ouais, et donc... il est battu, et dit-on, il aurait tellement été choqué, vexé, que les habitants de Firminy ne le soutiennent pas, car il avait été mis en minorité même à Firminy, même dans son fief, qu'il aurait quitté Firminy pour s'installer au château de Feugerolles, dont il avait hérité d'une tante. Et c'est ainsi que, effectivement, si on consulte les registres de recensement de l'époque, du XIXe siècle, on s'aperçoit qu'en 1869-1870, il n'y a plus de Charpins au château. Il y a des habitants, il y a des cloutiers, il y a un gardien, il y a un fermier, mais rien. Et puis, si, apparaissent à partir de 1880 des personnages nouveaux qui vont avec l'industrialisation de la vallée.
Tu veux parler de locataires.
De locataires, des ingénieurs qui viennent soit des AFI, c'est-à-dire Verdier, soit de chez Holzer, par exemple Bruxelles. Mais ce n'est pas l'objet de,
oui,
de cette histoire. Peut-être ça le sera un jour. Donc, on est là, et Hippolyte André-Suzanne donc, ne reviendra plus au château. Il s'enfermera dans son château de Feugerolles. Il abandonnera, en 1870, c'est la Troisième République, donc ce n'est pas du tout son histoire. Il abandonne la politique, il se lance dans l'histoire.
Ah oui, il écrit.
Il écrit, il se remarie d'ailleurs, parce qu'il est devenu veuf entre-temps, et il décède en 1894. Deux ans plus tard...
Eh bien, deux ans plus tard, son fils André-Camille Régis vend les Bruneaux. Les Bruneaux sont vendus.
À qui ?
Eh bien, à la famille Chaplon.
Alors, je te glisse une anecdote, là, à propos de cette vente.
Oui.
Parce qu'il y avait deux...
Eh bien, oui. Et alors, explique la vente en réméré.
Oui, la vente en réméré. C'est-à-dire que, en réalité, lorsque le château a été mis en vente, ça a intéressé les Chaplon, qui... avait des propriétés tout autour, il était à la Martinière, c'est Antoine Chaplon qui deviendra propriétaire plus tard, et il voudrait bien devenir châtelain, c'est un rêve.
Oui.
Hein, les Chaplon ont toujours été une famille ambitieuse de commerçants, de propriétaires. Et il y a un autre candidat pour le château des Bruneaux, c'est...
Le maire de Firminy.
Farine. Farine, excusez-moi, c'est son surnom, c'est Marcelin Souhait.
Marcelin Souhait, bien sûr.
On l'appelait Farine parce que son père était meunier au Chambon.
Au Chambon.
Moulin Souhait.
Oui.
Donc, Souhait aurait bien souhaité, c'est le cas de le dire, devenir propriétaire, enfin la ville, propriétaire du château, de la propriété, car il aspire d'y installer son hospice de vieillard. Au grand air, il a déjà tout manigancé, enfin manigancé en tout bien, tout honneur. Il a obtenu des subventions, en particulier sur les courses, et tout est prêt. Mais il faut-il encore acheter le terrain ? Or, le comte décide de vendre sa propriété en réméré. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était une façon, parce qu'ils avaient été, les Charpins avaient été échaudés avec les bicolons levant. Ils avaient vendu la propriété et ils n'avaient pu y rentrer qu'in extremis. Parce que les autres faisaient de la défense et de la procédure et ils ont mis 10 ans. Donc la vente en réméré, c'est simple. Je vends ma propriété, mais je suis prioritaire pour la récupérer en cas de revente. Donc ce type de vente était interdit pour les mairies. C'était une vente qui était interdite par l'administration. Donc, Souhait, à son grand regret, n'a pas pu suivre et il a laissé la place libre à Chaplon.
Eh oui. Donc, Antoine Chaplon,
Antoine Chaplon.
Devenir, donc, avec son épouse et ses 5 filles, châtelain des Bruneaux.
Voilà.
Et voilà. C'est une vieille famille de la région, hein, les Chaplon, important propriétaire foncier, comme tu le disais, enrichi dans le commerce. Le quartier de la ville, entre la place du marché et la rue nationale, leur appartenait en grande partie.
Oui, c'était le quartier Chaplon.
Voilà, le quartier Chaplon. Et
il avait donné du terrain pour agrandir la place du marché, car d'ailleurs, la maison qui est le long de la place du marché, en montant, sur la droite, c'était l'ancienne maison Chaplon. Il avait même donné, fait fondre une cloche pour Saint-Pierre, qu'on appelait la Laurence.
Oui, c'est vrai.
Et donc, c'était des gens riches. Tiens, une anecdote à propos des Chaplon.
Eh bien, justement, l'écriture là, du nom Chaplon, là, Jean,
oui.
Les deux P2L pour...
Ça, c'est une anecdote qui m'a été contée par un descendant de Laurent Chaplon. Laurent Chaplon était considéré comme le fondateur de la lignée. C'est pas vrai, il y a eu d'autres Chaplons avant, bien évidemment. Mais enfin, c'était un personnage marquant. Et il aurait, d'après cette personne qui est aujourd'hui décédée, il aurait réuni ses frères et sœurs, et il aurait, surtout ses frères, et il aurait décidé, de son propre chef, que seule sa lignée sa lignée à lui. Portrait du nom Chapelon écrit avec deux P et deux L.
Oui, chose que tu as pu vérifier à travers des actes.
Ah oui, 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 on a des actes qui le prouvent, des actes d'état civil. Par contre, tous ses frères cadets pourraient l'écrire avec deux P, mais un seul L. Alors ça a grogné, paraît-il, selon mon témoin, mais...
Bon, ça s'est bien terminé, parce que...
Oui, finalement.
Et finalement, il a eu un fils unique.
Oui, qui est parti en quenouille.
Oui, et qui est décédé, donc, ouais. Et puis après...
Ben... Donc, il n'a pas eu de descendant l'aîné.
Voilà, donc finalement...
On voit des signatures avec deux P, deux L, mais qui disparaissent. Après, il n'y en a plus. Il y a deux P, un L. Voilà l'écriture de... Donc, ce chapelon, cet Antoine, il a hérité d'un oncle, il a hérité de son père, il est... Au moment où il devient propriétaire du château, il est déjà propriétaire rentier à la Martinière. Il est marié avec une fille, avec Marie Souvigné, qui est originaire de Saint-Didier-en-Velay, et il fait 6 enfants, dont 5 seront vivantes.
Oui, les 5 filles du château, comme on les appelait à l'époque. Donc on les connaît.
Oui, vas-y.
Donc il y a donc Lucie, il y a Marie... il y a Marie-Julie, Antoinette, on prend que les premiers prénoms, Marie-Jeanne, ouais, ouais. Et Marie-Louise. Mais, voilà. Comme tu le dis, je viens d'en citer 6, et une décède prématurément. Ouais, ouais. Donc,
on peut ajouter que sur ces 5 filles, 2 se marieront. L'une va devenir Madame Tessot, et l'autre va devenir Madame Thomas.
Ah oui, les Thomas les au château, les Thomas, bien sûr, ils sont bien connus.
Voilà.
Donc, la ferme.
Et la ferme. Donc, les 3 filles qui restent vivent avec leurs 2 parents et vont tenir le château, qui est en réalité une grosse ferme. Alors, si tu veux nous en dire un petit peu plus...
Oui, mais revenons un peu à revenons notre histoire,
revenons à notre
fil conducteur d'aujourd'hui.
Oui.
Donc, le trésor des Bruneaux. Et oui, plus d'un siècle après donc, avoir remis l'argenterie du château... La famille Charpin...
Alors, je fais une incidente. Ça, c'est un témoignage qui m'a été donné par un descendant indirect des demoiselles Chapelon, justement un descendant de monsieur... Il s'appelait monsieur Tessot.
Oui.
Voilà, qui est venu visiter au château et qui nous a donné des documents intéressants et, entre autres, qui nous a raconté cette anecdote que Michel va vous raconter.
Donc... Eh bien, un soir, nous avons les descendants donc, des Charpins, un descendant qui vient frapper à la porte du château. Les Chapelons sont propriétaires, habitent la maison. C'est d'ailleurs la Louise, comme on dit à Firmini, qui vient ouvrir la porte.
C'était la plus jeune, mais c'était elle qui tenait les clés.
Ah, mais oui, oui, on a des témoignages là disant qu'elle était... Hein, elle verrouillait.
Ah oui, d'ailleurs, bon, excuse-moi, une parenthèse. J'avais questionné ou interrogé, on avait discuté avec un ancien domestique des demoiselles Chapelon, qui avait commencé tout jeune comme apprenti, enfin comme berger, et qui disait « J'ai jamais eu aussi faim que dans cette maison. Hein? » Tout était sous clé, et la Louise, elle bouclait tout. Elle avait un gros trousseau de clé, et la moindre armoire était fermée. Vas-y.
Oui, donc là, écoutez, nous sommes donc la famille Charpin et on vient vous voir. Nous avons fait une découverte dans la bibliothèque du château de Feugerolles. Notre ancêtre, Louis-Alexandre Jérôme, avait sur un papier consigné certaines choses et à la lecture de ce document... Eh bien, nous sommes là aujourd'hui parce que, voilà ce qu'ils racontent, parce qu'ils ont été accueillis chaleureusement, évidemment, par les Chapelons, entraînant, venez, installez-vous, expliquez-nous un petit peu le problème. Et là, donc, l'histoire est commentée, et voilà ce que disait le document, c'est que toute l'argenterie du château...
Rappelez-vous, il y a 100 ans.
Oui, oui, toute l'argenterie n'aurait pas été remise aux révolutionnaires.
C'est ce que disait le comte dans ce papier qu'on avait retrouvé par hasard dans la bibliothèque.
Et oui.
Et voilà, il avouait une
faute. En avoir détourné une partie et l'avoir...
Une bonne partie,
l'avoir enterré dans une... Avec une mise... Cette argenterie était mise dans une cassette, au pied d'un arbre, à côté du puits, sur le site du château des Bruneaux. est-ce que vous savez précisément là, il y avait des éléments assez précis. On y va, on prend pelle et pioche, on s'approche du puits, on a l'arbre encore qui existe à cette époque, et allez,
on pioche
jusqu'à ce que,
ça sonne creux.
Oui, il y a quelque chose, grattons un peu, allons doucement, on écarte un peu la terre, et on fait apparaître, effectivement, une cassette. On sort la cassette, on l'ouvre, et là,
pleine d'argenterie.
Comme annoncé dans le document. Alors, Jean, pour la fin de l'histoire, quand même, je te laisse raconter, parce que les chapelons, finalement, quand on trouve un trésor sur le territoire de quelqu'un, sur les terres de quelqu'un, crois que ça lui revient un peu.
Ça lui revient, mais les chapelons aussi étaient fiers de pouvoir obliger les charpins.
Tout à fait.
Parce que, ainsi, il montrait, par sa générosité, car bien sûr, il n'a pas été question. Antoine Chapelon a dit, mais il n'est pas question, monsieur le comte, que nous partagions quoi que ce soit. Le trésor vous appartient à votre famille, et je me fais un plaisir de vous la remettre. Et bien évidemment, qui est-ce qui était le plus ému et le plus reconnaissant? Eh bien, c'était le comte André Camille de Charpin qui se confondit en remerciements à Antoine Chapelon et à sa famille d'être des honnêtes gens. Et Antoine Chapelon était tout content d'être ainsi reconnu.
Voilà, c'est la fin de l'histoire.
De l'histoire de ce trésor
du château.
Du château qui a existé.
Le 21 janvier 793, Cabret tyran dernier, qu'on nommait Louis XVI, a reçu ses étrennes pour avoir conspiré ce cuillard de Varenne et donc guillotiné. Ayant prémédité la perte de la France contre la liberté, fut la grande offense, la raison souveraine, diminuant son rang, par conseil de la reine, fit répandre le sang. Louis Capet était héros du fanatisme, des prêtres soutenaient le sanglant catéchisme, se parjure despote, pour le peuple jurait, le blason, la calotte, ce tyran soutenait. Il pouvait être heureux, étant roi sur la terre. Pour lui, c'est malheureux qu'il fût sans caractère. Pour avoir une tête, pour être couronné, étant faible et trop bête, il fut guillotiné. Pas que le nom de roi soit hors de nos mémoires. Pour soutenir la loi, remportons des victoires. Le bonnet et la pique, conservons bien français. Vive la République, crions à tout jamais.
Alors, on se permet de vous faire deux annonces.
Oui.
Nous avons évoqué au cours de l'émission les nocturnes des Bruneaux.
Eh bien...
La prochaine arrive.
Oui, c'est la troisième.
Oui.
Elle aura lieu le 19 mai. La maison sera ouverte, à partir de 19h30, mais le spectacle, c'est 20h, 20h15, tout dépend le monde qui va venir se presser. On espère qu'il y aura, comme les autres années, beaucoup de monde.
Voilà.
Le spectacle est gratuit. Et on vous donne un petit programme quand même.
Oui, alors nous tenons auberge. Elle sera ouverte, donc, comme dit Jean, à partir de 19h30. Et le thème cette année, nous l'annonçons, conte, musique et danse.
Voilà. C'est-à-dire que les visiteurs, sous la conduite du comte de Charpin,
Ah oui, mais alors c'est un hologramme, là.
Parce oui, que, c'est un hologramme, en quelque sorte.
Il va y avoir trois comptes.
Il y aura trois comptes, mais l'abondance de biens ne nuira pas.
Ah non, pas du...
Hein, donc, avec les comptes de Charpin, les visiteurs iront de salle en salle découvrir ces salles, leurs particularités, mais aussi...
Une surprise.
Disons, des spectacles qui varieront entre... Le conte, la musique classique, la danse. Voilà un spectacle et un programme qui doit pouvoir plaire à nos visiteurs le 19 mai.
Donc rendez-vous le 19 mai à partir de 19h30, Château des Bruneaux. Et puis simplement...
Jusqu'au bout de la nuit.
Jusqu'au bout de la nuit. Et puis un tout petit clin d'œil pour notre prochaine exposition qui va démarrer le 2 juin, mais nous aurons l'occasion de reparler de ça, de cette exposition. Nous enregistrons une autre émission de radio le mois prochain, donc sachez simplement la date, c'est à partir du 2 juin, les sites miniers et la sécurité dans les mines.
C'est plus intéressant que le titre peut le laisser penser.
Ah oui, il y aura même un objet unique...
Objet mystérieux.
Objet mystérieux, mais ô combien intéressant.
Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, à la prochaine.
Au revoir.